J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mouimaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous propose parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La société civile de Goma et les mouvements citoyens ont marché lundi dernier contre la criminalité observée ces derniers jours dans la ville, chef-lieu du Nord Kivu. D'après les manifestants, plus de 25 personnes ont été tuées dans une période de 2 mois sans que les autorités se prononcent sur cette question. Cette situation relance le débat sur la problématique de la sécurisation et la protection des habitants dans certaines agglomérations du pays. Comment réagissez-vous? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Ce magazine est mis en onde par Polydor Basunga, Nico Kalamba, Jir Longimbo sont à la réalisation et Piro et Lamenji. J'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Des cas d'insécurité à Goma, à Lubumbashi et dans d'autres villes du pays, nous en parlons avec vous. Comment arriver à mettre fin à ce regain d'insécurité? Nous avons associé à cet échange Maître Jean-Paul Lumbulumbu, député provincial élu de Goma. Maître, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, je corrige, je suis élu du territoire de Lubero.
Ah, élu du territoire de Lubero, merci beaucoup. Vous avez initié d'ailleurs dernièrement un mémorandum, une déclaration autour de la question de l'insécurité. Comment expliquez-vous la recrudescence de cette insécurité dans un passé le plus récent?
Je voudrais de prime abord remercier la radio Capi pour cette opportunité qu'elle nous offre de pouvoir aborder cette question aussi sensible pour notre population de la province du Nord Kivu et particulièrement dans la ville de Goma. Et en même temps, en profiter de l'occasion pour dire grand merci à la population du Nord Kivu, les territoires de Lubero, la ville de Goma, qui ont fait de moi aujourd'hui député provincial. Et c'est en cette qualité, évidemment, que je suis appelé à fournir davantage d'efforts pour contribuer à l'amélioration de la sécurité de la population du Nord Kivu. C'est dans ce cadre également que nous avons adressé, comme vous l'avez dit, une action tendant à contribuer à cette sécurité. Écoutez, la ville de Goma, elle donne aujourd'hui l'image d'une ville où on tue chaque jour, on pille chaque jour, on viole. Pourtant, c'est possible de donner une autre image de la ville de Goma. La ville de Goma, c'est une ville où il fait beau vivre, où il y a des activités économiques intéressantes, des opérateurs économiques, le tourisme. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer à l'amélioration de l'image de cette ville. Pourtant, l'insécurité a élu domicile depuis un certain temps. Vous essayez d'interroger le mois de février. Février aura été le mois le plus cauchemardesque pour la population de la ville de Goma. Nous avons connu plus de 20 personnes, soit tuées par des personnes porteurs d'armes, soit kidnappées, soit portées disparues. Le mois de janvier, on en a connu 8. Vous interrogez le dernier semestre de l'année 2018. Goma a connu un phénomène nouveau d'actes d'insécurité. Il s'est agi des actes d'incursion collectivement opérés par des hommes porteurs d'armes qui pouvaient arriver dans un quartier, piller 10, 15, 20 maisons. Ils viennent avec des véhicules, ils viennent avec leurs femmes, ils viennent avec des enfants et cela au vu et au su de l'autorité locale, de la police et de l'armée. Jusqu'aujourd'hui, la population de Goma continue à être victime de ces actes d'insécurité. Le mois de mars vient de s'afficher également très noir. Au début du mois de mars, déjà, dans les quartiers Ndosho, on a tué plus de 12 personnes et d'autres sont portées disparues. Nous avons pensé que trop, c'est trop. Il faut que les choses changent et ça doit changer parce que la population attend beaucoup de nous. En tant que de nouveaux élus, qui doivent contribuer à l'amélioration de sa condition.
Voilà.
De sa sécurité.
Alors, maître Lumbulumbu. Oui, maître Lumbulumbu. On sait que le cas d'insécurité aujourd'hui à Goma sont concentrés dans le quartier Ndosho. Il y a aussi des cas à Majengo. Et on a vu dernièrement au mois de février, à Mugunga. Alors, comment expliquer que ces hommes puissent opérer à Ndosho, Majengo et Mugunga? Disons quand même qu'ils sont des endroits, identifiés.
Bon, il faut reconnaître que le quartier Ndosho, le quartier Majengo, ce sont des quartiers qui se trouvent dans la commune de Karisimbi. D'ailleurs, à l'heure où vous nous appelez, nous sommes dans un atelier sur la situation sécuritaire à Goma, particulièrement pour la commune de Karisimbi, qui est un quartier limitrophe avec le territoire de Nyiragongo. Et lorsque vous voyez le territoire de Nyiragongo, vous voyez très vite le parc national de Virunga. Donc, il y a d'abord possibilité qu'il puisse y avoir des hommes armés qui vient du parc national de Virunga. Là, on pense essentiellement aux FDLR qui pénètrent dans la ville de Goma pour des raisons que nous sommes en train de chercher à identifier. Ils opèrent et ils rentrent. Donc, comprenez que Majengo et Cherondosho sont limitrophes au territoire de Nyiragongo. La deuxième chose, la commune de Karisimbi. Et ce quartier-là que vous venez de citer se trouve dans la commune de Karisimbi. C'est la commune la plus peuplée. La ville de Goma a 18 quartiers. Mais la commune de Karisimbi, à elle seule, elle en a 11. Donc il y a une très très forte concentration de la population dans cette commune-là. Aussi, les populations déplacées qui viennent du territoire de Masisi, fuyant les hostilités créées par les groupes armés, ils viennent nombreux se loger dans la commune de le quartier Ndosho, quartier Mugunga. C'est autant que ceux qui viennent du territoire de Nyiragongo, fuyant également les affres des groupes armés, ils viennent plus de trouver des endroits dans le quartier Majengo et les environs. C'est ce qui justifie qu'il y a une très très forte concentration de la population dans cette commune-là, et exactement c'est dans cette commune-là où il y a beaucoup plus d'exactions de tueries.
Mais cela étant, maître Lumbulumbu, quelle est la cartographie aujourd'hui du déploiement de la police dans cette partie de la ville de Goma?
Évidemment, la question nous l'avons passée au peigne fin. Je ne peux pas imaginer qu'une ville de plus d'un million, un million d'habitants aujourd'hui, qu'on puisse avoir une police dépourvue de tout moyen logistique. Nous avons des commandants ville qui essaient de faire quand même le nécessaire à la limite de leurs possibilités. Le colonel Job, qui se trouve être au four et au moulin dans toute la ville de Goma, il ne va circuler qu'avec des jeeps. Je ne le vois pas intervenir efficacement lorsqu'on l'appelle Ndosho alors qu'il est dans le centre-ville, qu'il intervient le plus rapidement possible dès lors qu'il n'a pas suffisamment d'hommes d'abord, il n'a pas suffisamment de véhicules. Donc il y a un sérieux problème de la logistique qui doit être affectée au service de sécurité. Et je suis en train de dire, la question de la sécurité dans la ville de Goma, ce n'est plus une simple question de sécurité publique. Elle devient maintenant une question de défense nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la proposition que nous avons faite au président de la République, nous avons demandé non seulement que la ville de Goma puisse être renforcée en logistique, en véhicules, mais qu'également qu'on puisse avoir un nouveau plan de sécurisation de la ville qui tienne compte des éléments, du fait qu'il y a maintenant des éléments des groupes d'armées étrangers qui peuvent pénétrer dans la ville, opérer et rentrer. Donc il faut combiner la donne groupes d'armées étrangers. Et là, ce n'est plus la question. Ça ne demande seulement plus l'intervention de la police, mais également l'intervention de l'armée. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre communiqué que nous avons adressé au président de la République, nous avons sollicité qu'il ordonne non seulement qu'on puisse déployer et engager sur terrain le plus de 400 policiers cantonnés dans le quartier Mugunga, mais qu'on puisse également permettre à ce que des patrouilles mixtes FRDC, PNC, MONUSCO soient périodiques et régulièrement effectuées dans les quartiers limitrophes avec le territoire de Nyiragongo pour boucher tous les endroits d'où viennent les FDLR et les autres bandits armés qui pénètrent la ville de Goma.
Merci, voilà. On va revenir à vous. C'est vraiment intéressant ces plaidoyers. Des cas d'insécurité sont arrivés aussi à Lubumbashi. Ils ont été notés et dans d'autres villes. Nous en parlons. Comment arriver à mettre fin à cela? Jérémy, vous êtes à Lubumbashi, Omar est à Kinshasa. Je rappelle encore que vous pouvez nous joindre au 081-890-4969 pour vos interventions en direct. Jérémy, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Vraiment, nous saluons un peu la pertinence de ce sujet vraiment combien important. Comme vous le savez bien, nous tous, nous avons un point focal qui constitue donc Donc, c'est-à-dire les dires hein, du président de la République lors de son investiture ou de sa prestation, je pense qu'il a bien dit qu'il ferait de sa sécurité son cheval de bataille et pourquoi pas l'instauration du droit de l'homme qui semble jusque-là empiété, qui semble être empiété au jour d'aujourd'hui, en l'instar de Goma qui semble vraiment essuyer vraiment les affres de guerre qui ne semblent pas dire son nom. Je pense que moi je suis à Lubumbashi, je partage le même point de vue, parce que nous sommes en train de voir vraiment des choses horribles vraiment ici en province. Mais je me demande, est-ce que le chef d'État doit-il laisser doit-il chaque fois tourner dans nos provinces, dans nos entités provinciales, pour pouvoir mettre et faire taire les armes qui semblent endeuiller des milliers de Congolais jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ça ne semble pas marcher. Moi,
alors, Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Jérémy, il y a eu des cas d'insécurité à Lubumbashi. Il y a eu même des manifestations de mamans qui ont marché, des gens qui ont revendiqué ça. Quelle est la situation aujourd'hui par rapport aux mesures prises par les autorités de la ville ou provinciales aujourd'hui, par exemple?
Je peux me dire que, monsieur le journaliste, vraiment, la situation demeure incontrôlée au jour d'aujourd'hui. Ça semble dépasser, donc, on dirait que les autorités sont dépassées par les événements. C'est à chaque point qu'il y a des bruits, des armes. Moi, je peux vous raconter l'histoire qui s'est passée au niveau de la Roissy, où nous sommes. Un jeune homme, parce qu'il s'est attrapé, je ne sais pas, il voulait acheter sa moto, il y a des bandits qui sont venus le visiter, notamment là. Et vous attendez, à chaque jour qui passe, il y a... Alors ?
Oui, on vous écoute, Jérémy. Voilà, on a des petits soucis des liaisons avec Jérémy. Jérémy estime à Lubumbashi pour lui que les autorités semblent être dépassées par ces cas d'insécurité. Faut-il aujourd'hui que le chef de l'État se rende partout dans toutes ces provinces pour faire taire les bruits des armes? Mais il demande quand même à ce que la question de la sécurité soit considérée comme une priorité pour lui. Merci beaucoup, Jérémy. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Omar. Bonjour. Omar, vous êtes avec nous. Bonjour. Des petits soucis des lignes avec Omar. Joseph Kaseke nous écrit à Bukavu en disant « Gouverner, c'est prévoir. Comment est-ce que l'État congolais n'arrive pas toujours à prendre des mesures pour dissuader les groupes armés actifs à l'est du pays, étant donné que nous sommes presque à la 6e opération lancée par les FRDC depuis 2008. Shadrach Ididi, je pense qu'il est temps que le gouvernement congolais prenne toutes les choses à main. La sécurité, ce n'est pas des choses nouvelles aujourd'hui. L'insécurité dans la partie est date de longtemps. On doit d'avoir déjà étudié cette insécurité pour proposer des pistes de solutions. Isaac Bamporiki nous écrit en disant ceci, les groupes armés principaux auteurs de l'insécurité au pays sont des affaires de politique. Si leur neutralisation n'était qu'une question militaire, il n'existerait pas les chefs miliciens Tcheka. N'a-t-il pas exigé des garanties de sécurité pour lui et pour ses témoins pour qu'ils répondent aux questions de la cour chargée de les juger au motif que ces révélations sont de nature à mettre en cause les plus hautes autorités du pays? Alors les politiques ont la grande responsabilité sur la gestion de l'insécurité. Olivier Folo qui nous écrit de Kinshasa. Lors de sa campagne électorale, le président Félix avait promis à la population de l'Est la paix et voire même la délocalisation de son état-major général pour l'installer à Beni. Nous devons lier nos paroles aux actes pour ne pas tomber en erreur. Erasto Lundo dit ceci, oui, c'est vrai, pourquoi les gens doivent continuer à pleurer ainsi à l'est et dans d'autres villes du pays? Joseph qui nous écrit des Kananga, il pense pour lui que 25 personnes, c'est déjà trop. La sécurité est une priorité absolue à laquelle le nouveau régime devrait s'épancher afin d'éviter de nouvelles tueries, et aussi les silences des autorités locales démontrent que ce n'est pas intéressant. Marcel, merci d'être avec nous de Louisa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, JR. C'est Marcel Didier Passois à Louisa. Je voudrais aborder presque dans le même sens avec tous les amis. Vous voyez que cette criminalité est presque la monnaie courante au Nord Kivu. La population des Nord Kivu ne se sent pas réellement intégrée et à l'aise comme s'ils étaient dans leur propre pays. Voilà ce que j'étais en train de vouloir penser. Les nouvelles autorités devraient s'évertuer à concilier leur théorie de la campagne à la pratique qui se traduirait en actes palpables pour éviter qu'on qu'on les taxe des discours démagogiques pour lesquels les Congolais sont déjà rassasiés. Et peut-être arriver à dire qu'avant les élections est égal à après les élections, Monsieur JR. Mais également, chercher à mettre cette population à l'aise chez eux en renforçant la sécurité et surtout chercher à combattre les causes primordiales de cette insécurité, je pense que ça sera une très bonne chose pour cette partie du pays, Monsieur JR.
Merci beaucoup, Marcel. Rappelons quand même que cela a été dit par le chef de l'État lors de sa campagne, mais on est à 44 jours, hein, espérons qu'avec la mise en place du gouvernement, qu'on pourra voir la concrétisation de cela. Rappelons quand même qu'on est à un mois et quelques jours, n'est-ce pas, de la prise de pouvoir, de prise de fonction du président Félix Tshisekedi, et que cette promesse pourra être tenue pour éradiquer l'insécurité. Omar, vous êtes à Kinshasa, je crois que la ligne s'est améliorée avec le studio. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute.
Merci Pierrot. C'est avec sensation et émotion que je prends cette parole, parce que l'histoire politique du Congo nous retrace que c'est depuis le 2 août 1998 que ce conflit a existé. On peut compter 21 ans que les gens ne font que mourir. Moi, je pense, comme l'a dit mon prédécesseur, il faut des études sérieuses pour des solutions sérieuses. Ce qui se passe s'appelle en droit un conflit armé. Et on distingue des conflits armés internationaux lorsque deux pays sont en guerre. On a vu le cas avec le Rwanda. Il y a des conflits armés internes lorsque un groupe de rebelles attaque un gouvernement en place. Il y a aussi des conflits armés internes mais internationalisés. Un groupe d'étrangers ou un groupe des hommes d'affaires mettre en place des groupes armés apparents pour attaquer le gouvernement en place pour leurs intérêts. Et quelqu'un a dit, lorsqu'il y a des conflits comme ça qui amènent à la mort, généralement la cause première, c'est la présence d'intérêts intra-jeux économiques. Quelqu'un l'a dit. Comment dans un même coin, pendant longtemps, on n'arrive pas à mettre fin à un groupe d'hommes qui mettent en pied tout un pays pendant beaucoup d'années, plus de 21 ans. Deux, il y a aussi la présence des frontières insolites, où on n'a pas des frontières sauvegardées, n'importe qui peut entrer. Mais moi, je peux ajouter, par rapport au cas de Goma, très cher Pierrot, il y a un problème sérieux. Il y a un problème de trahison. Comment on peut comprendre un grand pays comme le nôtre, dont l'armée est classée 10e en Afrique, qu'on n'arrive pas à mettre à l'écart des gens qui nous ont attaqués depuis longtemps? Il y a des gens au niveau interne, politique ou autorité militaire, qui collaborent avec ces gens. On doit se les dire pour que la paix existe. Il y a aussi la non-motivation de nos forces de sécurité. Comment voulez-vous que nos forces défendent les gens sur le temps qu'ils sont mal payés? Et des solutions efficaces doivent être posées. Moi, je pense qu'il faut une table ronde de nos tables de Goma, de Bukavu. Ces travaux ont été initiés, je crois, en 2007 à l'époque. Je crois que c'est M. Kamer et M. Rogo qui disaient les travaux. Les gens se sont rendus compte que, au-delà de tout ce qu'on peut spéculer, il y a des conflits internes entre ces tribus, il y a des trahisons internes et il faut que les gens se parlent. Je crois que quelqu'un a dit limiter des moutons dans les troupeaux ou plus se lui à dormir. Si les Congolais sont unis, les gens de l'État sont unis, on va trouver qui est à la base de tout cela. Deux, il faut étudier très bien les problèmes. Je l'ai dit, est-ce que c'est un conflit armé international entre deux États? Est-ce que c'est un conflit armé interne? Quel est le groupe qui identifie? Vous avez vous-même dit que les gens attaquent dans des endroits très bien connus et tant que foncé là où ils habitent. Il faut aussi l'étudier diplomatiquement avec d'autres États. Il faut l'étudier militairement, savoir à qui on a affaire. Et enfin, politiquement, avec les autorités politiques. Troisièmement, je pense que c'est un problème de volonté politique. L'histoire politique nous renseigne. Sous l'époque des Mobutu, on n'avait pas ce genre de cas. Il y avait la paix. Sous Moïse Kabila, il n'y avait pas ce genre de cas. Si ces deux-là ont pu mettre la paix avec la volonté, je crois que l'actuel chef peut aussi mettre la paix. Je prends le cas de la ville de Kinshasa. Les Koulouna ont brillé ici, les paroxysmes ont atteint son niveau le plus élevé. Mais lorsqu'on a initié l'opération Likofi, on a senti un changement. Donc au-delà des tables rondes qui doivent réunir les notables de l'Est pour qu'ils se parlent franchement, découvrir les causes ethniques, au-delà des causes politiques, diplomatiques et militaires qui doivent être avec des solutions efficaces, il faut que le gouvernement en place qui est en place, puisse prendre des mesures efficaces et munies de volonté politique. Sinon, on sera là de discours en discours, mais si on ne sait pas quels sont les vrais problèmes, si on n'a pas des moyens efficaces et la volonté déterminée pour mettre fin à cela, on tournera toujours à rond. C'est avec colère que je parle, avec émotion, parce que ça fait plus de 21 ans que les gens coulent, un groupe d'armées, des gens qui sont même pas au nombre de 300, va mettre en péril tout un pays, dont l'armée est 10e en Afrique. Voilà ma petite contribution, très cher Pierrot, je vous remercie.
Merci beaucoup Omar, c'est important. Vous avez proposé au-delà d'une table ronde réunissant toutes les notabilités de provinces du Nord, du Sud, Kivu pour discuter sur les causes, mais il faut aussi surtout faire une étude approfondie pour savoir pourquoi la persistance de l'insécurité. Comme je le disais tout à l'heure pour la ville de Goma, le meurtre sont enregistrés en Docho, à Majengo et dans le quartier Mugunga d'ailleurs. au mois de février, lors de la tenue du festival à Mani, il y a eu personnes qui ont été tuées à Mugunga. Et vous estimez que à ces conditions, il faut qu'on arrive à faire une étude sérieuse pour savoir quel est le vrai problème aujourd'hui qui se pose dans cette zone et comment éradiquer cette insécurité. Nous avons notre ami Roland qui nous écrit de Lubumbashi, qui l'a dit aussi à Lubumbashi. Ça fait 4 mois maintenant que la ville a été secouée sérieusement par des cas d'insécurité, de viol, de vol aussi. Et d'ailleurs, les mamans ont marché jusqu'au gouvernorat du Katanga pour aller exprimer le ras-le-bol par rapport à ces cas d'insécurité dans la ville de Lubumbashi. Sylvain, vous êtes à Bounia. Merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour. Oui, Sylvain, si vous pouvez vous déplacer, vous pouvez tout en intervenant, vous pouvez vous déplacer un tout petit peu ou changer de position tout en intervenant.
Là, vous me suivez correctement?
Oui, allez-y.
Bien, à l'époque, il y a l'ancien vice-président Azalea Soubelo qui avait donné un temps de sécurisation.
Non, Sylvain, on a des petits soucis. On a des petits soucis. Comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas encore vous déplacer parce que là, votre ligne sort entrecoupée. Vous avez dit que dans les temps, l'ancien vice-président Roubéroy avait proposé un plan de sécurisation de l'Est, c'est ça? Non, dommage, Sylvain, on va vous rappeler, votre intervention est intéressante, on va vous rappeler, juste voir si ça peut marcher sur une autre ligne. En attendant, nous avons Dieu merci plutôt, qui nous écrit, qui nous appelle des Manono. Bonjour, Dieu merci.
Bonjour, cher, bonjour à tous les amis qui suivent la radio Capi.
On vous écoute. Dieu merci, vous êtes avec nous? Voilà, là il y a encore... Oui.
Hier, je disais ceci. Allô?
Allez-y, Dieu merci, on vous écoute.
Oui, je disais ceci. Vraiment, l'apport hein, face à cette situation n'est pas visible. Quand si vous essayez de voir dans notre pays ici, moi je vais... avant de parler de cette situation de nos amis de l'Est du pays, prenons seulement Calémie ici. Il n'y a pas une semaine, les jeunes se sont jetés dans la rue pour... vraiment déplorer l'insécurité. En plein centre-ville, à la place qui s'est brûlée là-bas, il y a eu de selon nos amis d'académie, les armes lourdes qui ont crié toute la nuit, juste pour faire les pillages. En plein centre-ville. À Lubumbashi, on n'en parle pas. Quand si les gens doivent passer nuit, ils se posent qu'est-ce qu'il faut, il sera matin ou bien il ne sera pas matin. Même à Manon, où je vous parle ici, il y a 15 kilomètres de Manon, ici, les gens ont perdu des millions, même ces commerçants qui ont perdu des $45,000. Maintenant, on se pose des questions. L'État congolais, sa responsabilité est où? Parce qu'il faut contrôler ces gens qui posent de tels actes. S'il faut parler pour les amis de l'Est du pays, ils ont souffert. Il y a à chaque fois des promesses. Et même pour le politicien, oui, chacun devait passer du côté, c'est pour sa campagne. Promettre parce qu'ils devaient comprendre les besoins de la population de l'Est, c'est la sécurité. Mais la sécurité, c'est un droit pour la population. Mais aujourd'hui, c'est comme si la population veut plaider pour être sécurisée. On ne sait pas comment expliquer ces phénomènes et à quand ces phénomènes peuvent prendre fin dans ce pays GR. C'est pourquoi nous avons besoin de demander au président que c'est comme il a promis, il doit lier sa parole à l'œuvre.
Merci beaucoup. Vous avez souhaité que ça soit à Lubumbashi, Calémie, Manono, partout il y a des cas d'insécurité, que le pouvoir public prenne leurs responsabilités nécessaires. On revient à vous, Sylvain, je crois peut-être que ça s'est amélioré maintenant entre Bounia et les studios. Et vous étiez en train d'évoquer le plan de sécurisation de l'Est qui a été proposé par l'ancien vice-président Azarias Roubéroy, Sylvain.
Oui, j'espère que là, maintenant, le réseau tient debout.
Ok, on s'entend très mieux, on peut avancer.
D'accord. Alors, à l'époque, l'ancien vice-président, comme je l'ai cité, disait ceci, c'est que le thermomètre de la bonne gouvernance en RDC risque d'être la sécurisation de l'Est du Congo. Et comme vous le constatez très bien, la physionomie de la rébellion à l'Est du Congo est très complexe. Il y a presque 4 États qui interviennent dans l'insécurisation de l'Est du Congo. Il y a le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, et aussi peut-être le Congo lui-même. Et quand vous comprenez très bien les causes, les mobiles de cette insécurisation, mais pratiquement aussi les ressources naturelles du Congo. Et alors, lorsqu'il avait proposé que cette histoire concerne tous les États de la sous-région qui sont concernés, les gens n'avaient pas compris. Aujourd'hui, il faut qu'on dise vrai. Ce qui se passe à l'est du Congo, c'est pratiquement cette gestion qui n'est pas orthodoxe par rapport à nos ressources naturelles. Nous évoluons dans le cadre de la mondialisation, où les États doivent tirer profit entre eux. Et malheureusement, quand cette question est évoquée, nous avons plus l'hypocrisie. Les relations internationales nous renseignent qu'aujourd'hui, aucun État ne peut évoluer seul. Il faut que le gouvernement congolais accepte que les ressources que nous avons, nous Congolais, puissent bénéficier aux Congolais et aux autres États qui nous entourent. Puisque cette histoire de convoitise, aujourd'hui, qui se manifeste par les différentes rébellions chez nous, apparemment n'intéresse pas le gouvernement congolais. Et si je vous prends, par exemple, le cas de Selou, vous connaissez les éléments de la FRPI qui sont chez nous ici. On peut se poser des questions, ils continuent à tuer les gens, pourquoi? Et qui sont des acteurs majeurs, endogènes et exogènes, dans cette histoire de FRPI à l'Ituri? C'est de la même façon qu'il faut se poser la question sur la civilisation à bon matin que vous le souhaitez. Et nous, nous pensons que ce qui frappe mal, nous sommes dans un pays où le taux de chômage est avancé. Et dans ce cadre, l'infiltration de notre armée à complicité avec nous, Congolais, risque d'être la grande raison. Il faut que nous puissions ramener le pays vers le plein emploi, puisque dans les pays où le chômage bat son plein, il y a assurance que les gens se penchent dans des activités de criminalité, des incivilités, et ce qui ne permet pas que la population vive la paix. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, je me dis, il faut que la jeunesse soit occupée. Puisque ceux qui commettent cette criminalité, ils ne sont pas nécessairement des étrangers, mais ils le font à complicité avec nous Congolais, nous jeunes. Et vous allez vous rendre compte, lorsqu'on met la main sur ces affaires de la criminalité à l'est du Congo, il y a des jeunes Congolais qui, ouvertement, quand vous les racontez, ils vous posent des problèmes, des manques d'emploi. Donc, il faut que nous puissions ramener l'est du Congo vers un peu d'emploi. Ça veut dire que chacun soit occupé. Je m'excuse. Prenez le cas du Rwanda en 1994. Quand ils ont quitté la guerre, il fallait qu'un des présidents congolais puisse instaurer une gouvernance centrée sur l'utilisation ou l'emploi de la jeunesse. Mm-hmm. Et pratiquement de toutes les couches sociales.
Merci. Merci.
Mais chez nous,
oui, terminé. Chuté par là, oui, Sylvain, chuté par là, oui.
Mais chez nous, il semble que du matin au soir, les jeunes gens sont dans ce qu'on appelle la vie volatile. Ils n'ont même pas un espoir de vivre. Et bien donc, ils trouvent qu'il faut...
Merci. Merci beaucoup Sylvain. Vous avez insisté sur la question des ressources naturelles. Il faut voir comment les pays de la sous-région peuvent mettre cette question au milieu du discuté autour de ça. Mais pourquoi pas aussi la question de l'emploi des jeunes aujourd'hui. S'il y a moyen de créer de l'emploi, s'il y a moyen que tous ces jeunes qui sont dans ces milieux où les ressources sont exploitées peuvent être récupérés, ils peuvent être encadrés et on peut arriver à combattre cette insécurité. 081 890 49 69 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Pichou, vous gardez la ligne, nous allons revenir à vous, le temps d'écouter une réaction de maître Jean-Paul Lumbulumbu avec qui nous sommes dans cette émission.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous êtes député provincial élu du territoire des Loubéraux. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi les compatriotes qui se sont exprimés par rapport à cette question de l'insécurité. Alors, quelle est votre réaction? Maître Lumbulumbu, vous êtes avec nous? On va rappeler Maître Lumbulumbu Jean-Paul qui intervient à partir des Goma. En attendant, Pichou, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Kouilungongo. Bonjour. Pichou, vous êtes avec nous. Bonjour.
Ouais, bonjour, bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, bon, en fait, moi, personnellement, je conçois très mal. Je conçois très mal parce que, à l'étape où nous sommes, le président investi connaît très bien les dossiers frappant l'Est de la République, pour ne pas dire l'entièreté de la République démocratique du Congo. Le président de la République, dans son discours d'investiture, a promis de garantir la sécurité dans notre pays. Ce sont des mots qui sont vraiment, vraiment très sensibles pour que lui-même puisse s'investir. Parce que la vie au Congo, la vie humaine, peut-être n'a pas de valeur. Nous voyons dans d'autres pays, s'il y a un Français qui meurt, ça pose des problèmes. Il y a des enquêtes. Mais ici, chez nous, nous ne comprenons pas. Or, je le dis, je le répète, je viens de lire la Constitution, la police a pour mission, il est chargé de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que la protection rapprochée des autres autorités. Cette même police dont vous faites allusion, comment sont-ils rémunérés? Comment sont-ils équipés? Comment cette police utilise sa mobilité? Messieurs les journalistes, nous avons un problème sérieux. Moi, je pense que, à l'étape des choses, si nous continuons à vivre des moments passés, je crois qu'il y a lieu de se poser plusieurs questions. Nous avons besoin de la sécurité, car c'est un droit constitutionnel. Nous n'avons pas besoin de mourir, de voir des morts ici et là. Nous n'avons pas besoin de connaître des Kuluna, parce que ces gens ne sont pas plus forts que la loi du pays. Les lois existent, nous devons le faire vivre. Et le faire vivre, c'est la police qui doit l'attirer. Dans des milliers comme le nôtre ici à Kulumongo, nous le voyons. La police n'a pas de mobilité. S'il y a des interventions, ils vont par moto. Dernièrement, il y a un policier qui est tombé et blessé au genou. Parce qu'ils sont allés suivre des voleurs, malheureusement ça s'est mal passé, ils sont tombés dans un ravin et les policiers s'est blessés. Imaginez-vous, la police n'a pas de mobilité, n'a pas de communication. Or, c'est très important, la communication, on peut vous informer même à 01. Vous voyez, donc, messieurs les journalistes, nous avons un problème sérieux. Je crois que le président de la République, si un de ses collaborateurs nous écoute, peut, n'est-ce pas, mettre ses dossiers sur la table. Du jour au lendemain, on rappelle le président que la sécurité est constitutionnelle. Les Congolais ont besoin de la sécurité. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, Pichou. Il faut rappeler cela au président de la République. Et vous l'avez dit, qu'il avait dit dans tout son discours, de s'engager à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Merci beaucoup. Et vous aurez aimé voir vraiment les moyens déployés pour doter la police des moyens nécessaires pour qu'elle puisse faire son travail comme il faut. Je crois, on retourne à Goma, Maître Lumbulumbu. Vous êtes avec nous maintenant. Je crois que c'est bon avec Maître Lumbulumbu. Voilà, on n'a pas encore eu Maître Lumbulumbu. On va retourner à Goma d'un moment à l'autre. En attendant, Fiston nous appelle de Lubumbashi. Bonjour, Fiston.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour également à l'ensemble des auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Fiston.
Merci beaucoup, monsieur Pierrot. Oui, merci. J'aimerais d'abord rebondir, comme tous les amis ont dit. Vous savez, monsieur Pierrot, la situation à l'Est en particulier et sur tout l'ensemble du territoire de la République et démocratique du Congo, vraiment, une fois de plus, nous en avons marre. Moi, je suis militant d'un mouvement citoyen dénommé Sirène, c'est-à-dire une synergie des intelligences pour la refondation de l'État élevé dans la nation. Ici, nous avons combattu ensemble avec le président Tshisekedi pour qu'il y ait le changement de ce pays, pour qu'il y ait vraiment la sécurité. Moi, ce que j'aimerais ici recommander au président de la République, c'est d'honorer les promesses qu'il a dit pendant sa campagne. Moi, j'ai été pendant la campagne du président de la République, il a dit qu'il va installer l'état-major à l'Est. Je demande, dès qu'il va finir à installer son gouvernement, qu'il puisse honorer vraiment sa promesse. Et aussi, qui puisse accélérer avec les processus donc d'amélioration des conditions de vie de nos forces de sécurité. Parce que vous savez, M. Pierrot, une ventre affamée n'a pas d'oreille. Si nos militaires, nos policiers, nos forces de sécurité ne sont pas bien encadrés, M. Pierrot, je vous dis que rien, et alors rien ne va se faire sur ce qui concerne la sécurité. Mais aussi, j'aimerais recommander à toutes les autorités provinciales, M. Pierrot, qu'il puisse prendre cette responsabilité en main. Il n'appartient pas seulement au président de la République de traiter pour ce qui est de la sécurité et chasser de nous sur la sentinelle de ce pays. Comment se fait-il que dans un pays comme le nôtre, chaque jour, nous devons enregistrer des morts, chaque jour, nous devons enregistrer des tueries, une fois de plus, vraiment, c'est de trop. J'aimerais aussi demander à tous ces mouvements citoyens qui sont en train aujourd'hui de marcher sur le terrain. Vous savez, nous avons milité ensemble pour qu'il y ait le changement dans ce pays. Alors, pour le moment, il ne suffit pas seulement d'être instrumentalisé pour marcher. J'aimerais que chaque mouvement citoyen comme nous ici, qu'ils fassent des recommandations, qu'ils apportent des pistes de solutions au président de la République. Est-ce que vous me suivez, M. Pierrot?
Oui, allez-y, continuez.
Ok, voilà. Qu'ils proposent, qu'ils amènent des recommandations sur les pistes de solutions au président de la République pour qu'il puisse noter dans son agenda. Je pense dans ce sens-là que nous allons vaincre vraiment la sécurité, donc les problèmes de l'insécurité. Et aussi, comme l'a dit un auditeur qui m'a précédé, identifier c'est quoi les problèmes. Parce que lorsque nous allons identifier le problème de l'insécurité à l'Est et sur toute l'étendue de la République,
merci.
Je pense que...
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fiston. Vous avez souhaité, comme vous l'avez dit, que dès que le gouvernement est installé, que le gouvernement et les chefs de l'État installent son quartier général à Goma. Il y a Alain Bolodio qui pose aussi la question pourquoi le président l'avait promis. En fait, il se pose la question pourquoi il n'a pas installé l'état-major à Goma. Et vous estimez qu'il faut d'abord qu'il y ait le gouvernement et qu'à partir de ce gouvernement, le président installe son état-major à Goma. Glody Tamboué nous écrit de Goma un message très très intéressant. Il estime qu'il y a à peu près 4 généraux à Goma. Il y a la MONUSCO, mais il y a le problème sérieux de l'insécurité. Pour lui, il propose des pistes et des solutions. Premièrement, il estime qu'il faut déplacer les 2 camps militaires de l'armée qui sont en pleine ville, comme les camps de Munzenze et les camps de Katindo. Il faut les déplacer, les délocaliser hors de la ville, mais aussi que la justice puisse faire son travail en punissant sérieusement et dans les procès publics tous ceux qui sont arrêtés pour des cas d'insécurité dans la ville de Goma et partout ailleurs. Pene, merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, mon intervention, je suis favorable à toutes les interventions qu'il y a eu avant moi. C'est notamment ceux-là qui ont relevé les causes endogènes de cette situation ça qui gangrène la République du Monde depuis un certain temps. Ils ont parlé de la trahison au sein de la chaîne de l'armée, du sommet aux hommes à l'uniforme qui sont sur le terrain par le fait qu'ils ne sont pas motivés, il y a la corruption et ainsi de suite. Tous ces facteurs-là, c'est normal. Mais au-delà de ça, nous focalisons l'attention plus sur le volet exogène, où nous voyons les pays limitrophes, c'est notamment le Rwanda par lequel beaucoup de groupes armés viennent pour entrer faire les incursions au Congo. Pour cela, et d'ailleurs vous constaterez que le Rwanda devient parmi les pays producteurs de minéraux qui ne sont pas sous son sol, mais qui proviennent effectivement de la RDC, de notre pays. Nous avons pensé qu'au-delà de tous ces pays limitrophes qui nous font cette guerre qui ne dit pas son nom, larvée, cette guerre larvée, il y a des tirés de fission dans l'ombre. Nous sommes allés tout droit vers certains pays occidentaux. Ce sont eux qui sont les héros dans l'ombre, qui sont de vrais commanditaires de cette situation, qui passent par certains pays dans la guerre. Pour cela, nous avons estimé, selon le vœu et la promesse du chef de l'État de pouvoir se réconcilier avec les frères de la réconciliation sur le cheval des batailles. Nous pensons que cette réconciliation doit aller au-delà de nos frontières pour parler avec les Occidentaux. Cette réconciliation, les Occidentaux, doit aboutir à leur retour au Congo. pour leur accorder la nationalité, en masse la nationalité congolaise. Ils étaient tous au 30 1960 les Congolais de la race blanche. De telle sorte que s'ils reviennent ici, ils sont parmi les généraux, ils sont parmi dans la chaîne de commandement de la police, de l'armée, même au niveau de la politique, l'administration. Je suis très certain qu'il n'y aura rien comme insécurité encore qui va continuer. Et même la promesse du chef de l'État de pouvoir instaurer son QG dans l'est du pays, nous ne pensons pas que ce sera une alternative. D'autant que la cause profonde vient de l'extérieur du pays, à commencer par les Occidentaux, qui cherchent à se payer par la main gauche ce qu'on leur donne pas par la main droite. Je prends l'exemple de la révision du code minier. Vous n'avez qu'à entendre, vous avez suivi comment cela a créé des tribus dans les milieux internationaux. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Et pour se payer autrement, ils passent par toutes ces voies-là qui leur sont ouvertes, notamment les pays limitrophes. Autrement, le Rwanda serait inquiété par le fait qu'il est bien producteur des minerais qui ne sont pas sur son sol. S'ils ne disent rien, c'est qu'il y a une complicité coupable. Et pour trouver une solution définitive à tout ça, que nous n'allions pas dans des palliatifs, des questions superficielles, autant les négocier avec ces blancs-là. Dès qu'ils reviennent, certainement tout ceci n'aurait plus lieu. Et même le développement pourrait avoir lieu. Cet exemple-là, de pouvoir cohabiter avec les Occidentaux, vient de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a rien perdu tout en gardant les blancs chez eux au terme de l'indépendance. C'est ainsi que vous constaterez qu'aucun pays limitrophe ne peut pas attenter à la sûreté de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas pour rien. Et l'Afrique ne se fait que prendre l'ascenseur. Nous ne devons pas continuer à nous vautrer dans ce nationalisme creux-là qui ne nous avance pas. C'est pratiquement des erreurs séculaires, des avatars du passé qui ne nous permettent pas de pouvoir léguer à notre postérité un héritage solide pour une vie stable de notre peuple.
Péné, vous estimez aujourd'hui que la solution du Congo, de tous les problèmes du Congo, n'est pas que par la réconciliation. Il ne faut pas parler des Occidentaux, il faut parler des Belges qui ont colonisé la RDC, qui étaient dans ces pays qui sont partis. Ça dit qu'il faut laisser les Américains, les Français, les Belges, les Américains se réconcilier avec les Congos, s'installer, gérer ensemble le pays. C'est de cette façon qu'on va trouver des solutions.
Merci beaucoup. Nous ne parlons pas seulement des Belges, nous parlons des Occidentaux. C'est que, il y avait les Occidentaux, il y avait les Américains, il y avait les Russes, il y avait les Français, il y avait les Allemands, il y avait
les Portugais. Et pour vous, la solution du Congo passe par la concession du pays avec toutes ces nationalités.
Ce qu'on a fait de l'avenir du commerce aujourd'hui, qui était maintenu entre les mains de Portugais et de Grecs concernant le commerce. On en a donné aujourd'hui aux Libanais, aux Indiens, aux Pakistanais. Vous avez la conséquence. Ce que nous voulons habiller Saint-Pierre par rapport déshabiller Saint-Pierre. C'est
voilà, merci beaucoup Péné, on vous a suivi, on aura un débat. Vous estimez pour vous qu'il faut une réconciliation avec tous les Occidentaux, c'est-à-dire que l'ensemble de tous ceux qui ont vécu, tous ces pays qui ont vécu au Congo, toutes ces nationalités à l'indépendance, il faut qu'ils viennent, qu'ils gèrent ensemble avec les Congolais. C'est de cette façon qu'on va résoudre le problème, y compris la question de l'insécurité. Mais on aura un débat sur cette proposition de réconciliation avec les Occidentaux. On revient à vous, Maître Jean-Paul Mboulumbu. On vous a perdu tout à l'heure. Vous avez suivi les uns et les autres beaucoup de propositions. Il y a même un ami qui est à Goma qui nous a écrit tout à l'heure, qui estime qu'il faut déplacer les camps militaires qui sont dans la ville pour les mettre à l'extérieur de la ville. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Maître Mboulumbu, a-t-on fait des analyses profondes pour déterminer les vraies causes de cette insécurité persistante?
Bon, évidemment, je partage totalement le point de vue de l'auditeur qui vient de proposer la délocalisation du camp militaire de la ville de Goma vers des endroits un peu plus lointains, parce que nous sommes également certains que l'insécurité vient également de ce côté-là. Nous pensons que la question du camp militaire n'est pas suffisamment bien gérée, la circulation des armes n'est pas suffisamment bien gérée, et nous pensons que cela constituerait également une solution à la question. Mais en ce qui concerne les causes profondes de cette insécurité, ne vous en faites pas, nous avons eu le temps de faire un diagnostic assez approfondi. Je vous ai dit tantôt que je participais même en ce moment à un atelier organisé par Paul Institute sur la question de l'insécurité dans la ville de Goma. Et les causes sont bien identifiées. Les causes, c'est notamment d'abord, lorsque vous essayez de demander à la population, dans la perception de la population, selon un rapport qui vient de nous être présenté par Paul Institute, pour la population, d'abord, il y a une faiblesse de l'autorité de l'État. Or, qui dit faiblesse de l'autorité de l'État, on voit notamment la responsabilité et l'implication de l'autorité provinciale, de l'autorité locale, dans la question de la résolution de problèmes de sécurité, notamment le maire des villes, dont nous avons proposé au président de la République la nomination urgente d'un nouveau maire de la ville. Et ça, c'est parmi les problèmes qui font en fait que la population sent qu'il n'y a pas l'implication des autorités dans la question de la sécurité, parce que, à un certain niveau, la personne qui a reçu mandat de la République de protéger les autres, c'est d'abord le maire de la ville, à qui la République a affecté des services, notamment la police, l'armée et les services de renseignement. Il est payé par les frais de la République à cet effet, et que donc cette faiblesse de l'autorité, moi, à mon avis, et ça c'est mon avis et je l'affirme, je pense qu'il faut urgentement remplacer le maire de la ville de Goma, mais mettre un maire qui a de l'expérience et qui peut s'imposer, mais à côté de cela, ça c'est une solution politique, il faut également une solution technique, ce que j'ai dit, il faut renforcer sur le plan logistique la police de la ville de Goma, il faudrait en même temps que l'autorité qui sera là soit en mesure d'établir un lien, une confiance avec la population qui peut lui transmettre des informations. C'est là également qu'intervient le rôle des cadres de base, les chefs d'avenir, les Nyumbakoum et les Nyumbakatu, qui ne sont pas appuyés par l'État, mais qui sont obligés de travailler de manière volontaire pour transmettre des informations sur la présence des bandits armés dans leurs cellules. Toutes ces questions-là doivent être passées au peigne. C'est possible, je vous assure, de sécuriser la ville de Goma si la volonté politique est là. Parce que les causes sont bien connues. Nous avons des causes directes, nous avons des causes lointaines, notamment dans le passé, vous savez, le quartier Nyiragongo avait reçu des rebelles outre-rwandais, je l'avais déjà dit, mais également cette proximité également avec le parc national de Virunga qui occasionne des incursions armées à tout moment. Nous pensons qu'il faut que le président de la République prenne la situation, ce qui concerne la ville de Goma, à bras le corps et prendre des décisions qui s'imposent pour que la ville de Goma puisse vivre dans la paix et la tranquillité. Il n'y a rien d'impossible par rapport à la question de l'insécurité de la ville de Goma. Nous avons eu le temps de résoudre un certain nombre de problèmes, et même la question du kidnapping, par exemple. Goma a vécu dans deux ou trois années dans des moments très forts de kidnapping. Il ne se passait pas deux ou trois semaines sans qu'un enfant, une femme, un jeune soit kidnappé dans la ville de Goma. Mais lorsque nous avons haussé le ton, en proposant par exemple la mise en place des comités de surveillance sur trois maisons, nous avons senti que c'est une stratégie qui a dissuadé les kidnappeurs, et nous avons connu une diminution sensible du phénomène de kidnapping dans la ville de Goma. Donc il manque une autorité dans la ville de Goma qui puisse être en mesure de prendre les décisions qui s'imposent,
voilà.
Mais sinon la ville de Goma c'est une ville là où il fait bon vivre.
Voilà, on va écouter les deux derniers auditeurs, Batier qui est exactement à Goma et Jules à Lubumbashi. Batier, merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Capi, je salue d'abord tous nos compatriotes qui nous suivent et surtout ceux des Congo profonds.
On vous écoute rapidement.
Par rapport au sujet, monsieur le journaliste, je pense que la situation ici, elle est plus que catastrophique à Goma. Moi, je pense que la ville de Goma, c'est la seule ville où la population, ils doivent dormir au plus ou moins 6-7 heures, au moins à 19h. Donc l'insécurité ici, ça bat record. Et j'estime que même le gouvernement central, il sait la situation de Goma, malheureusement, il fait les sourds oreilles. C'est pour vous dire que l'autre fois, l'ancien gouverneur, l'honorable Julien, il avait même demandé à ce qu'on fasse la troïka de la sécurité ici dans la ville de Goma. Malheureusement, le gouvernement n'avait même pas écouté cela. Et la situation ici, je pense que c'est aussi ce que nous vivons, c'est les conditions de vie des militaires et des policiers. Moi, je vous dis, monsieur le journaliste, parce que il y a des gens qui sont un peu lointains, ça fera la situation d'ici. Les conditions que les policiers vivent ici, c'est déplorable. Donc, leur mobilité, tu vas voir que les policiers font des patrouilles en pied, les militaires, les PM, ils n'ont pas de mobilité. Alors, c'est vraiment déplorable. Moi, je pense que le gouvernement devait prendre vraiment des dispositions pour améliorer les conditions de la sécurité de la population. Mmh. Sinon, c'est difficile. Et tu vas voir que toute la population, elle est exposée à des problèmes sérieux, monsieur le journaliste. Moi, je pense que le gouvernement doit prendre vraiment au sérieux cette situation.
Merci, merci beaucoup, Batier. On va écouter le dernier auditeur, Jules, qui est à Lubumbashi. On revient à vous, maître Lumbulumbu, pour conclure cet échange. Jules, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot Lamégi, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Toutes mes condoléances à tous mes compatriotes de Goma qui ont perdu les leurs. Je vous dis, cette recrudescence des crimes au niveau de notre pays, c'est pas seulement à Goma, c'est presque dans tous les pays. Donc, surtout ici à Lubumbashi, je vous dis, il n'y a pas longtemps, nos mamans ont marché par rapport au viol. Donc c'était terrible. Ils sont passés juste au niveau du gouvernorat, déposer les MMO. Parce que c'est grave. Aujourd'hui, si il y a les cambrioleurs qui entrent, donc la première des choses, c'est de violer d'abord la femme, les enfants, soit ils vous disent que non, ils trouvent les pères avec la maman et ses enfants. Les pères couchent avec ses enfants, la maman couche avec ses jeunes garçons. Vous trouvez ça ne se passe pas comme ça. Je ne comprends pas comment notre pays n'arrive pas à éradiquer cela. Parce que dans d'autres pays, si vous voulez vous déplacer, par exemple, je suis dans telle province, je vais aller à Kinshasa, on doit m'identifier. Je faisais quoi ici pour aller là-bas? Vous voyez, aujourd'hui, il y a les gens qui viennent dans d'autres provinces pour s'installer ici à Lubumbashi. Je vous dis, ils font des choses terribles. Si on parle, vous êtes tribaliste et ainsi de suite. Donc, chaque tribu ou chaque communauté a ses notabilités. Il faut qu'on puisse appeler ses frères ou chaque tribu. Ici, il y a des communautés qui peuvent s'appeler pour commencer à s'identifier. Parce que il y a des choses terribles, monsieur.
Voilà. Ça dit que cette proposition a été aussi.
Hier, ici, oui. Une dame qui a été violée. Ouais, je l'ai reçu chez moi, et elle était de passage, on l'a kidnappé, elle a même été violée.
D'ailleurs, pour vous compléter, Jules, tout à l'heure, Maître Omar parlait d'une table ronde des notabilités, n'est-ce pas, du Nord Kivu, du Sud Kivu, pour pouvoir réfléchir un peu plus en profondeur autour de cette question. On revient à vous, Maître Lumbulumbu, pour terminer cet échange. Il y a cette proposition de Jules, Omar l'a fait aussi, de débat. Cela veut dire qu'avoir le temps de discuter, de réunir les notabilités, pour savoir comment réfléchir par rapport à cette question.
Évidemment, la question du dialogue, elle est très importante entre les notabilités, mais il faudrait qu'au terme de cette table ronde des notabilités, que les résolutions qui vont s'en suivre puissent connaître une application effective, parce que c'est aussi ça le problème des réunions dans différents ateliers. Il y a souvent des recommandations qui malheureusement ne sont pas prises en compte, mais c'est une option qui sur le plan politique peut également apporter une solution, parce qu'il faut une collaboration et une communication entre les différents notables. Mais quant à moi, pour conclure, parce que vous avez dit, je voudrais
rapidement
deux mots. Le premier mot, c'est d'exprimer encore une fois toute ma solidarité, ma compassion à la population de la ville de Goma, qui vit dans l'insécurité, qui est tuée chaque jour, chaque nuit, et en même temps faire un appel au président de la République. La situation de l'insécurité de la ville de Goma, comme je l'ai dit tantôt, n'est plus qu'une question de sécurité publique. J'invite le président de la République à faire de cette question une question de défense nationale, une question stratégique où il est appelé à agir personnellement et le plus rapidement possible avant qu'on ait tué encore une personne. J'imagine que cette nuit, une personne encore va être tuée. Dans tel quartier, telle personne va être kidnappée. Monsieur le président de la République, je lance ici en tant qu'élu provincial les cris d'alarme de la population de la ville de Goma qui vous invite à agir le plus rapidement possible pour stopper les tueries et les kidnappings dans
Merci.
La ville de Goma.
Merci beaucoup, Maître Jean-Paul Lumbulumbu. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député provincial, élu du territoire des Loubéro. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. Vous êtes nombreux à commenter ces sujets. Le débat se poursuit sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Nico Kalamba. J.R. Lungembo l'a coordonné, Martin Asebujangwe l'a supervisé, Pierrot et la Meji. C'est un réel plaisir pour moi de vous dire merci pour votre sympathique attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Mais en attendant, ce magazine est sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 21h, heure de Kinshasa. Merci, au revoir.